Je salue Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Ça va bien, Michel, en ce 1er avril?
Ça va bien, Hélène.
Oui, est-ce que vous êtes fait jouer un tour jusqu'à maintenant?
Ben non, puis je voulais en jouer, puis j'ai complètement oublié ce matin.
Ah, ben jamais trop tard.
L'an prochain.
Vous avez jusqu'à minuit.
Ah, jusqu'à minuit, mais là, je viens de l'annoncer.
Mais si vous êtes ratoureux, on ne sait jamais, ça pourrait fonctionner.
Ah, oui.
Alors, Michel, demain, je ne sais pas si il est ratoureux, mais il en rêve du jour de la libération, entre guillemets, aux États-Unis. C'est le président Trump qui va annoncer une vague de tarifs pour tous les pays. Alors, à quoi on peut s'attendre, Michel?
Mais oui, jour de la libération, hein, à date, ça n'a pas l'air d'être un poisson d'avril.
Non.
Puis non plus, je suis pas sûr que ça va libérer beaucoup de monde, mais si on faisait le point sur ce qu'on sait en ce moment, là, on va en apprendre sûrement plus demain. En ce moment, on a 25 % de tarifs sur les produits en provenance du Canada et du Mexique là, qui vont vers les États-Unis puis qui sont pas couverts par l'accord continental de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, là, la CEUM. On a 10 % sur l'énergie canadienne et mexicaine qui, encore une fois, rentre aux États-Unis. Et puis 25 % de tarifs sur l'acier et l'aluminium de tous les pays. Donc ça, c'est ce qu'on a en ce moment. Il y a eu d'autres annonces, alors on s'attend à 25%, ça a été annoncé, sur les autos et les pièces non fabriquées aux États-Unis. Puis ça cause beaucoup de mots, M-A-U-X, mm-hmm. Peut-être de mauvais mots, M-O-T-S, les représentants là, de l'industrie automobile.
Ça va être en vigueur à partir de minuit ce soir.
Le 2 avril, c'est okay. Ça. Donc c'est ce soir, ça.
Mm-hmm.
Et puis, des tarifs réciproques. Là, donc, le président Trump a promis des tarifs réciproques à ses partenaires commerciaux. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut dire ben si un tel pays impose des tarifs de tant de pourcents sur des produits américains, ben nous, on va faire la même chose. Est-ce qu'il va viser les mêmes produits en provenance de ce pays-là ou d'autres produits? À quelle hauteur vont être ces tarifs-là? On est dans le flou pour le moment, mais on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Ça, c'est peut-être un peu plus marginal pour le moment, mais plus tard, le président Trump a laissé entendre qu'il imposerait peut-être des tarifs sur les médicaments qui viennent du Canada, donc l'industrie pharmaceutique.
Et pourquoi Donald Trump impose-t-il ces tarifs-là?
Bon, lui, ce qu'il a en tête, puis je fais abstraction, là, à un moment donné, il a parlé du fentanyl, là, puis ça, je pense que c'était n'importe quoi, comme on pourrait dire. Mais ce qu'il veut, c'est rapatrier des industries manufacturières aux États-Unis. Depuis 30 ou 40 ans, ces industries-là se sont délocalisées, sont allées en Asie, au Mexique. Donc, il y a beaucoup moins d'emplois manufacturiers aux États-Unis qu'il y en a déjà eu. Puis, d'une certaine façon, c'est ce qui a favorisé là, l'élection de Trump à deux reprises. Là, il a vraiment joué là-dessus sur les gens qui avaient perdu leur emploi, des bons emplois payants, en guillemets, manufacturiers. Alors, Trump a joué là-dessus. Puis là, ce qu'il essaye de faire, c'est rapatrier la production d'automobiles et d'autres biens manufacturiers vers les États-Unis. Puis la façon de faire, c'est d'imposer des tarifs à ces mêmes produits lorsqu'ils sont importés de l'étranger vers les États-Unis. Donc ça, c'est la première raison. L'autre raison, là, qui parle un peu moins, mais il a quand même mentionné à quelques reprises, c'est qu'il veut augmenter les revenus de l'État puis diminuer le déficit. En fin 2017, début 2018, lors de son premier mandat, le président Trump avait annoncé des baisses d'impôts, de l'impôt fédéral qui étaient significatives. Puis ça creuse le déficit, les gens payent beaucoup moins d'impôts. Et ces baisses-là ont été renouvelées fin février dernier. Elles venaient à échéance en 2025, donc elles ont été renouvelées fin février. Puis comment financer ces baisses d'impôts-là? Ben c'est d'imposer des tarifs. Puis lui, il pense que ce sont les étrangers qui vont payer pour le déficit américain. En fait, ça va être plus les consommateurs américains qui vont payer pour ces hausses de prix induites par les tarifs plus élevés. Mais lui, il pense que c'est à l'étranger. Des mauvaises langues disent qu'il y a peut-être un peu de ça. C'est que les baisses de taxes touchaient notamment les consommateurs riches. Donc, il finance en partie ces baisses de taxes qui touchent les gens plus fortunés par des hausses de prix pour les consommateurs américains. Ces hausses de prix-là ben, touchent la classe moyenne puis aussi les gens plus défavorisés. Il faudra voir l'incidence de toutes ces taxes-là. Là, mais, donc, c'est en gros ce qu'il y a en tête là, en imposant ces tarifs-là.
Est-ce que ça va fonctionner?
Ben, l'avenir va nous le dire, mais les marchés financiers sont parfois là pour nous dire ce à quoi les gens s'attendent.
Depuis la fin ils nous donnent des indices.
Ça nous donne des indices parce que le prix, par exemple, d'une action d'une compagnie américaine, ben ça reflète sa profitabilité future. Donc, les marchés financiers, c'est une façon là, de voir ce à quoi les gens s'attendent pour le futur. Les marchés américains sont en baisse de 6% depuis 2 mois. L'indice Nasdaq, qui lui, c'est plus les compagnies de haute technologie, est en baisse de 10%. En Europe, les marchés ont baissé de 4%. Puis en Toronto, moins que peut-être ce qu'on pourrait s'attendre, ils ont baissé seulement de 2,5%. Ils ont baissé, mais moins que d'autres économies. Donc, il y en a beaucoup qui disent que le président Trump est en train de créer une récession là, en imposant ses tarifs, en mettant des barrières au commerce, à la mondialisation, au commerce international. Mais il est en train de créer une récession. Pourquoi? Ben, supposons que vous êtes... une compagnie d'automobile puis vous produisez au Mexique. Là, il y a des tarifs sur vos ventes aux États-Unis. Allez-vous délocaliser votre entreprise? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les tarifs sont juste à court terme. Délocaliser une entreprise, ce sont des milliards en jeu. Donc, on ne prend pas de décision d'investissement comme ça aux États-Unis juste sur la base d'une politique qui est peut-être seulement temporaire. Donc, les gens n'investissent moins, retardent leurs investissements, puis tout ça, bien, ça ralentit la croissance de l'économie, puis ça peut mener à une récession. Donc les gens de la finance sont très sceptiques quant au succès d'une politique tarifaire, puis même les syndicats sont d'accord. C'est rare qu'on a des financiers et des syndicats d'accord, mais le Congrès du travail du Canada et la Fédération américaine du travail, là, la puissante AFL-CIO, ont demandé l'abolition des mesures tarifaires afin d'éviter des souffrances économiques inutiles aux travailleurs et aux entreprises des deux comtés de la frontière. Là, je citais, si vous voulez, ces lettres-là. Comment ils veulent faire ça? Mais ils essaient de pousser le Sénat américain à voter pour une loi contre l'état d'urgence qui a été décrété par Trump pour justifier ses tarifs de 25% sur le Canada. Il avait évoqué l'état d'urgence par rapport au fentanyl pour justifier des tarifs de 25% sur le Canada. Alors, on essaye d'avoir une loi qui va dire on met la fin à cet état d'urgence et donc ça mettrait la fin aux tarifs. Ça serait voté aujourd'hui au Sénat. Alors, on va suivre ce qui va se passer. Là, on va avoir en savoir plus sur ce vote plus tard aujourd'hui.
Oui, sur le jour de la libération. Qu'est-ce qui va être vraiment libéré?
Oui, exactement.
Et puis, Michel, vous avez une nouvelle qui va affecter des gens peu favorisés pour terminer cette chronique.
Ben oui, c'est un peu... quand j'ai lu cet article-là, je trouvais ça vraiment triste, ce qui arrivait. Le gouvernement du Québec veut réduire son déficit là, qui a été annoncé au dernier budget. On coupe dans plusieurs ministères, plusieurs programmes dans un paquet de ministères, puis il y en a une qui a retenu mon attention, puis ça a été rapporté dans la presse ce matin. On abolit le programme Réno-Région. Donc, c'est aboli par la ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau. C'est un programme qui coûtait 15 millions par année. Puis en gros, l'objectif du programme, c'est de financer des rénovations essentielles à des demeures en région pour des gens dans le besoin. Je vous donne les critères du programme. Là, vous allez voir que, bon, oui, ça favorisait des propriétaires immobiliers, là, mais ce n'était pas les plus riches au Québec. Pour être éligible, il fallait que le salaire combiné du ménage soit en bas de 30 000 par année et que la valeur de l'habitation ne pouvait pas excéder 150 000. Donc, c'est vraiment une classe de gens plus défavorisés. Là. Je ne dis pas que c'est les plus pauvres de la société, ils sont quand même propriétaires. Mais pourquoi c'est triste, c'est que souvent les gens âgés en région, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives pour se loger quand ils vieillissent. Il y a peu de résidences pour personnes âgées, il n'y a pas beaucoup de loyers ou de logements à loyer modique, puis ils doivent rester chez eux. Puis ce programme-là les favorisait, si vous voulez, rester chez eux. Qu'est-ce que ça pouvait financer, par exemple, un toit qui coule?
Oui.
tu sais, ou changer des fenêtres, là, ou qui sont mal isolées, etc.
Ils doivent rester chez eux, ils veulent rester chez eux souvent.
Exact. Et puis ça, je pense que ça s'aidait, puis je pense que c'était des fois, les programmes gouvernementaux sont mal ciblés, puis ça cible peut-être des gens qui sont moins dans le besoin, mais pas celui-là. J'avais l'impression que c'était un bon programme, mais là, il va lever les pattes, malheureusement.
Bon, bien, c'est très triste, en effet.
Oui, c'est pas la chronique la plus triste aujourd'hui.
La plus joyeuse, vous voulez dire?
La plus joyeuse.
Ouais,
c'est ça. Puis on va espérer que peut-être le président Trump va dormir, puis demain, peut-être va annoncer des nouvelles meilleures que ce à quoi on s'attend.
Ouais, on sait jamais avec lui. Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Merci quand même.
Oui, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.